Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des respirateurs installés à la hâte dans des voitures en file d'attente devant des hôpitaux. Scène impressionnante à laquelle a assisté notre correspondant en Italie à Naples, où les soignants semblent débordés. Nous irons sur place dès le début de ce journal.
L'Organisation mondiale de la santé enregistre d'ailleurs un record absolu de nouveaux cas quotidiens sur la planète. En France, en revanche, le pic de l'épidémie de Covid-19 pourrait être passé, selon le gouvernement.
La crise sanitaire ne ralentira pas les réformes en faveur des personnes en situation de handicap. Ce matin, un comité interministériel a lieu à Matignon pour annoncer de nouvelles mesures. Car vous l'entendrez, les chômeurs handicapés sont plus nombreux depuis le début de l'année.
Et puis nous analyserons les résultats de la présidentielle en Moldavie. Une pro-européenne vient d'être élue, c'est la première présidente du pays.
Pendant ce temps, le Pérou perd un troisième président en 3 ans seulement. Nous irons à Lima. Après cette édition, le billet politique, Frédéric Seix se demandera ce matin comment maintenir un débat démocratique quand il n'y a plus de vérité commune. Et l'on commence donc ce journal en Italie. Alors que l'Organisation mondiale de la santé enregistrait hier un record absolu de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 sur la planète, la pression devenait insoutenable dans les hôpitaux en Campanie, dans la moitié sud de l'Italie. Bruce de Galzin, notre correspondant de l'autre côté des Alpes, est allé à Naples et dans sa région pour comprendre la réalité de la situation. Les hôpitaux sont débordés au point que les patients qui ne peuvent pas être admis attendent dans leur voiture avec une bouteille d'oxygène. Voici son reportage.
Maria est positive depuis un mois. À 65 ans, elle est malade, a du mal à respirer, alors elle tente d'être hospitalisée.
Je respire un peu.
J'ai réussi à respirer un peu mieux avec l'oxygène.
Ce que l'on entend, c'est l'oxygène que Maria respire dans sa voiture grâce à une bouteille posée à terre devant les urgences de l'hôpital Cotugno de Naples.
Sono due giorni.
C'est le deuxième jour que nous faisons la queue. Et maintenant, ils vont me faire rentrer. Hier, ils m'ont fait un scanner et les résultats étaient mauvais. Donc, j'attends qu'ils m'hospitalisent.
Un infirmier arrive pour changer la bouteille d'oxygène et rassurer Maria.
Avec l'oxygène, vous pouvez respirer tranquillement sans vous agiter. Quand elle sera vide, on la changera. Nous viendrons vérifier toutes les 15 minutes.
Maria ne reste pas seule. Elle est avec Fabio, son fils, qui l'a accompagnée en voiture hier. Et encore aujourd'hui.
Ils m'ont tout de suite aidé en 5 minutes. Ils sont efficaces et rapides, mais on ne sait pas combien de temps on va attendre. Il faut qu'un lit se libère. Ils sont un peu submergés, il y a trop de monde qui arrive. Et toutes les 5 minutes, il y a une ambulance.
Une situation qui ne renvoie pas une bonne image de la gestion de la crise sanitaire en Campanie. C'est pourquoi les services de sécurité nous ordonnent de quitter les lieux.
Bruce de Galzin, que nous retrouverons plus longuement encore à l'occasion d'un dossier sur la situation italienne dans le journal de 18h de France Culture ce soir. La pression est toujours forte aussi dans les hôpitaux français, mais les premiers effets du reconfinement se font sentir dans les laboratoires. Tout porte à croire que nous avons passé un pic, a dit ce matin Olivier Véran dans les colonnes des journaux régionaux du groupe EBRA, Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Il y a moins de tests positifs au Covid-19 et moins de contagions, explique le ministre de la Santé, tout en précisant qu'il est encore trop tôt pour relâcher nos efforts. Le confinement est donc toujours de mise, et avec lui la difficulté de trouver ou de retrouver un emploi. Ça l'est d'autant plus pour les personnes en situation de handicap. Elles sont déjà 2 fois plus nombreuses au chômage que la moyenne, et pour le premier semestre 2020, Pôle emploi enregistre une baisse de 30% des reprises d'emploi pour des personnes handicapées. Alors que commence une semaine européenne à ce propos, écoutez ce matin le témoignage de cette femme âgée de 36 ans. Elle a perdu l'usage de son bras droit après un accident de la route en 2013. Et depuis, ses entretiens d'embauche sont devenus très difficiles.
J'ai besoin d'une adaptation au niveau du poste de travail. Et dès qu'on mentionne cette partie de la vie, c'est ma vie courante de toute façon, tout de suite, les employeurs sont super réticents. Et en fait, ils arrêtent, ils trouvent le meilleur moyen pour arrêter l'entretien. Et j'en ai passé 5-6 comme ça. Psychologiquement, c'était compliqué. Je me disais, mince, pourtant, j'ai mon cerveau comme tout le monde, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je n'appellerais pas ça de la discrimination, j'appellerais plutôt ça comme un manque d'information au niveau des employeurs. Ils ne savent pas trop comment gérer la situation, ils ne savent pas trop comment faire. Ils sont dépassés, en fait.
Alors justement, que se disent les employeurs face à des personnes handicapées en entretien d'embauche ? Thomas Giraudeau, vous avez commencé par interroger une agence d'intérim.
Chez Up Intérim, Julia Baronne éprouve beaucoup plus de difficultés qu'avant le premier confinement pour obtenir des contrats.
Aujourd'hui, le taux de chômage étant plus élevé, les entreprises, on va dire, ont un petit peu plus le choix des personnes qu'elles souhaitent embaucher et sur la polyvalence des compétences qu'elles souhaitent aussi. Compétences à mettre immédiatement à profit dans leurs organisations.
Autre obstacle, les employeurs craignent que ces salariés handicapés soient plus exposés au coronavirus, une idée reçue selon Carole Salaire, conseillère nationale emploi à l'association APF France Handicap.
On a parfois là un amalgame qui est fait entre personnes en situation de handicap et personnes vulnérables au Covid. Alors c'est vrai que dans certaines situations, bien entendu, les travailleurs en situation de handicap peuvent être considérés comme des personnes vulnérables au Covid, mais ce n'est pas le cas pour tous.
Pour tenter de lever ces barrières, le gouvernement a annoncé une aide de 4000 euros pour les entreprises qui embauchent un travailleur handicapé pendant au moins 3 mois. Un chèque bienvenu mais insuffisant pour Arnaud de Broca, président du collectif Handicap.
Je doute que dans un contexte où les préjugés et les discriminations des employeurs restent importantes et même vont se développer, une prime de 4000 euros suffise à faire basculer la balance pour recruter un travailleur handicapé.
Car 2 entreprises sur 3 pensent qu'il est difficile d'intégrer un demandeur d'emploi handicapé, alors que dans de nombreux cas, il ne nécessite pas d'adaptation particulière.
Et pour évoquer ce surchômage des personnes en situation de handicap, un comité interministériel du handicap se réunit ce matin sous l'égide du Premier ministre. Dans la foulée, à Matignon toujours, Jean Castex recevra dans l'après-midi les représentants des cultes. Hier ont eu lieu de nouvelles manifestations de catholiques qui réclament toujours un retour de la messe. Quelques milliers de fidèles ont ainsi participé à des rassemblements à Toulouse, Nice ou Strasbourg. Pas d'exception culturelle française pour les librairies. Vous le savez, elles sont fermées et pour au moins 10 jours encore. Le gouvernement a beaucoup évoqué la situation du click and collect, comprenez réserver et venez retirer. Après 2 semaines de mise en pratique à cause du reconfinement, Thomas Larabi s'est rendu dans le nord de Paris à Asnières, chez la librairie Nouvelle, où il faut être un peu patient pour récupérer sa commande.
Devant la librairie, sur le trottoir, la file s'allonge.
Rebecca, l'arabe du futur et Yasmina, c'est exactement
ça.
Votre...
Tout à fait.
Evelyne, c'est ça?
Bénédicte.
Ah, Bénédicte, zut.
Mais c'est bien ce que j'ai commandé.
À l'intérieur, des livres empilés dans tous les sens et les 8 salariés de la librairie qui travaillent à temps complet depuis la semaine dernière.
C'est beaucoup de travail de préparation des commandes et surtout qu'on a, contrairement au premier confinement où on pouvait servir que les livres qu'on avait en stock, on peut commander des livres, mais ça demande beaucoup de travail de réception, de traitement, de logistique.
Laurent Bougnonman est copropriétaire de la nouvelle librairie.
C'est quand même pas le même métier, c'est-à-dire que la notion de conseil, de relation avec le client est au cœur du métier du libraire indépendant. Là, c'est un métier de logistique dont on ne voudrait pas qu'il prenne quand même le pas sur notre métier habituel.
La librairie peut compter sur ses habitués, mais aussi sur de nouveaux acheteurs militants, désireux de venir en aide à leurs commerçants de proximité. Ajoutez à cela la livraison avec les frais de port désormais pris en charge par l'État. Résultat, 70% de l'activité habituelle, mais avec des changements dans la consommation des livres, selon Laurent Bouyenman.
On vend quand même pas mal de choses, mais pas très variées. Le fait de passer par Internet, ça donne plus de visibilité aux grosses parutions dont on parle dans la presse ou les gens trouvent facilement sur notre site. Et ça donne moins de place aux petits éditeurs et aux romans récents dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais nous, on reçoit toujours autant de livres et notre librairie est pleine à craquer.
Toutes les librairies n'affichent pas ces bons résultats. Selon le syndicat des librairies de France, les enseignes affichent en moyenne une perte de 60% et la moitié d'entre elles n'ont toujours pas de site internet pour assurer le click and collect.
C'était Thomas Larabi pour ce reportage qui lance finalement parfaitement notre journée spéciale sur France Culture, journée dédiée aux libraires et plus généralement à l'amour de la lecture et des livres. Toutes nos émissions ou presque y seront consacrées ce lundi. Une journée littéraire alors qu'une centaine de responsables d'associations, de syndicats, de partis politiques ou d'écrivains appellent ce lundi à stopper Amazon. Dans leur tribune publiée ce matin chez nos confrères de France Info, ils demandent l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires d'Amazon. Sur France Culture, à la mi-journée, nous poserons la question de cette taxe à Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, invité de Thomas Cluzel pour le journal de midi et demi ce lundi.
En attendant, il est 8h10 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le procès des attentats de janvier 2015 reprend aujourd'hui après 2 semaines d'interruption.
Oui, et dans le même temps, aujourd'hui aussi devant une autre cour d'assises de Paris, s'ouvre le procès de l'attaque du Thalys. C'était en août 2015. L'attentat n'avait fait que 2 blessés, si l'on peut dire, car plusieurs passagers, parmi lesquels des militaires américains, avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Ce dernier devra répondre de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres en Europe, a un nouveau président et c'est une présidente pro-européenne. L'élection s'est achevée au milieu de la nuit avec un plébiscite pour la candidate réformiste Maia Sandu avec 57% des suffrages. Elle est la première femme à accéder à la présidence de cette ancienne république soviétique, Stéphane Sioran.
En élisant Maia Sandu, la Moldavie a peut-être enfin décidé de sortir de l'ornière. La candidate du camp réformiste, ancienne économiste à la Banque mondiale, âgée de 48 ans, a été élue avec 57% des voix exprimées. Maia Sandu prend ainsi sa revanche contre le président sortant, le pro-russe Igor Dodon, qui il y a 4 ans l'avait emporté. Seulement, les vents ont tourné dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, le plus pauvre d'Europe, dont un tiers de la population a émigré. Traditionnellement, la Moldavie voyait s'opposer des candidats pro-russes, conservateurs, orientés sur la politique du Kremlin, et des forces oligarchiques dites pro-européennes qui ont souvent utilisé le rapprochement avec Bruxelles pour masquer leurs affaires corrompues. Maia Sandu est certes pro-occidentale, mais elle détonne dans le paysage car elle est réputée intègre et elle a basé sa campagne sur la réforme de la justice, l'état de droit et le renforcement des institutions. Ce discours arrive tout doucement à transcender la géopolitique, les divisions Est-Ouest, ainsi que le clivage entre russophones et roumanophones. C'est un programme qui a conquis les électeurs de la capitale, Chișinău, mais c'est surtout la diaspora, poussée au départ par des années de marasme, qui a fait pencher la balance.
C'était Stéphane Sioan. Là, il n'y a pas eu d'élection et c'est bien pour cela que le nouveau président a démissionné hier soir. Au Pérou, l'intérim de Manuel Merino n'aura duré qu'une petite semaine. Après la destitution de l'ancien président Martín Vizcarra, Manuel Merino lui avait succédé la semaine dernière en sa qualité de président du Congrès. S'en sont suivies des manifestations dans tout le Pérou. Une répression violente, un gouvernement qui démissionne et donc un nouveau président qui se résigne à partir. Eric Sanson.
Lorsqu'il a démissionné lors d'une brève allocution à la télévision, Manuel Merino était bien seul. Dans la nuit de samedi à dimanche, les 2/3 de ses ministres avaient démissionné. Les membres de l'état-major militaire avaient refusé de se rendre au palais présidentiel où il les avait convoqués. Dans les rues de Lima, les manifestations se succédaient avec un bilan chaque fois plus grave, 2 morts, près de 100 blessés et plus de 40 disparus. Alors qu'il l'avait pourtant adoubé il y a une semaine, les principaux partis politiques l'ont abandonné, y compris le sien, Action Populaire, dont le secrétaire général lui a demandé de démissionner et de mettre fin à son aventure. Manuel Merino n'avait plus qu'une seule porte de sortie, la démission. Dans la nuit de dimanche, le Congrès s'est réuni d'urgence pour nommer ses nouvelles autorités et donc le futur chef de l'État. À minuit, heure locale, les partis politiques ne s'étaient toujours pas mis d'accord sur une liste de consensus, alors que l'ex-président Martín Vizcarra n'exclut pas de revenir au pouvoir si le tribunal constitutionnel condamne les modalités de sa récente destitution.
C'était Eric Sanson depuis Lima pour France Culture. Plus à l'est, des municipales avaient lieu ce week-end au Brésil. Élection au goût amer pour le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, puisque ses candidats n'ont pas été élus hier. Terminons cette édition avec ce décollage réussi pour la fusée SpaceX. 4 astronautes, 3 Américains et 1 Japonais sont en route en ce moment vers la Station Spatiale Internationale. Après un report de 24 heures à cause du vent, ils se sont envolés cette nuit de Floride, une première aux États-Unis depuis 9 ans. C'est un récit signé Loïc Piala.
3, 2, 1, 0.
La fusée Falcon 9 a décollé du même pas de tir que celle du programme lunaire Apollo, d'une mission historique à l'autre. 9 minutes avant le lancement, Michael Hopkins, le capitaine de l'équipage, assis dans la capsule Dragon, a pris le temps de saluer les équipes de SpaceX et de la NASA.
En travaillant ensemble, vous avez inspiré la nation et le monde. Maintenant, c'est à notre tour de jouer notre rôle.
Le trajet jusqu'à la Station Spatiale Internationale va prendre 27 heures. L'arrimage se fera sans intervention humaine. Cette première mission habitée de 6 mois est un succès de plus pour SpaceX. Gwynne Shotwell, directrice de l'exploitation de la firme californienne.
Dans les 15 prochains mois, nous prévoyons de lancer 7 missions Dragon. Nous espérons avoir une capsule Dragon en orbite continuelle. Alors la mission d'aujourd'hui marque une nouvelle ère dans le vol spatial habité.
Bien plus détendu que les dirigeants de la NASA lors de la conférence de presse qui a suivi le lancement, Gwynne Shotwell incarne l'image cool associée à SpaceX malgré les enjeux. Les techniciens qui ont installé les astronautes dans la capsule sont par exemple surnommés les ninjas en raison de leur combinaison noire.
Et ces 4 astronautes devraient atteindre la station spatiale internationale demain vers 5h du matin, heure française. La journée en France métropolitaine débutera sous un temps souvent très nuageux, humide même sur le quart nord-est. Temps qui va progressivement s'améliorer. Ce matin, il fait 9 degrés à Limoges, 11 à Lille et Strasbourg, 12 degrés à Paris et 15 le long de la Méditerranée, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h16 sur France Culture. Dans quelques instants, on va continuer à évoquer la culture par ces temps de pandémie. Nous serons en compagnie de l'écrivain, scénariste et réalisateur Edgar Quéret, dont le court-métrage Outside est visible sur le site de France Culture. C'est drôle, poétique et c'est assez confiné. Aussi, malgré tout, dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardat, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis, dans quelques instants, le billet politique avec vous, Frédéric Seys, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Une notion très politique, la vérité, qui vit des temps plutôt troublés en ce moment.